Le 6-9, un tour dans le monde. Une émission présentée par Arthur Bex. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans Un Tour dans le Monde. Et on s'intéresse aujourd'hui, après 16 jours de mise en place et d'effervescence, le silence règne dans la principale position fortifiée de l'infanterie israélienne à la lisière de la bande de Gaza. Nous y reviendrons dans un instant. Et puis nous parlerons de la tour de la Discorde à Tahiti, le projet de construction d'une nouvelle tour en plein lagon sur les sports mythiques de Teahupo pour pouvoir accueillir les juges de l'épreuve de surf fait débat, vous l'entendrez. Et puis, nous partirons aux États-Unis où le Mississippi est à sec, il manque désespérément d'eau, soyez les bienvenus. Après 16 jours de mise en place et d'effervescence, le silence règne dans la principale position fortifiée de l'infanterie israélienne à la lisière de la bande de Gaza, un silence anormal caractéristique de l'attente, la 1337 reportage. Après 16 jours de mise en place et d'effervescence, le silence règne dans la principale position fortifiée de l'infanterie israélienne à la lisière de la bande de Gaza, un silence anormal et caractéristique de l'attente. Ce terrain sableux au milieu des champs s'est transformé en parking pour environ 500 véhicules blindés et tanks Merkava de l'armée de terre israélienne stationnés en une quinzaine de colonnes d'une dizaine de véhicules chacun, a observé l'AFP. Les engins de tête sont parés du drapeau bleu et blanc à l'étoile. Les soldats de ces unités, dont leur uniforme non tactique, sont principalement occupés à l'entretien intérieur et extérieur des engins. Une station de ravitaillement en eau et en essence était installée à l'écart. Toute cette première ligne est protégée par une immense tranchée longue de 2 km creusée par les engins du génie militaire, l'une des unités les plus cruciales de l'opération israélienne, celle qui prépare le terrain à l'incursion et rentre en premier dans ces engins immenses. Le génie militaire est indispensable, sans nous, personne ne rentre dans Gaza, explique D, soldat en service de l'unité 601 du corps d'ingénierie militaire, témoignant anonymement comme tout soldat sans supervision du porte-parole de l'armée. Il y a beaucoup d'obstacles, l'ennemi arrose de roquettes et autre chose que je ne peux pas détailler, pour nous empêcher de progresser, explique celui qui occupe une fonction liée au déminage. L'état-major affirme être prêt pour une incursion terrestre, la prochaine phase annoncée de l'opération militaire israélienne lancée contre le Hamas après l'attaque du 7 octobre qui ont fait plus de 1400 morts et quelques 220 otages en Israël selon le bilan israélien. La décision reste désormais entre les mains du gouvernement et de l'allié américain. Parmi ces préparatifs très concrets, Israël a fait désactiver par Google les fonctions de navigation de Google Maps et de Waze dans toute la zone militarisée du Sud, interdite aux civils ainsi qu'à Gaza. Tout appareil est localisé par défaut à l'aéroport Tel Aviv, à 150 km de là, ou bien au Caire, ont constaté des journalistes de l'AFP. Pour rejoindre la base de Tselem, la plus grosse base militaire du sud du pays, située à près de Beersheva, il suffit donc de suivre l'embouteillage. Sur les kilomètres, bus et de tourisme, voitures familiales, tanks et jeeps de l'armée forment un convoi interminable jusqu'à l'entrée de cette base d'entraînement. Une véritable ville, secret défense au milieu du désert. Tselem est connu pour abriter une réplique de certains quartiers de Gaza, mosquées et minarets compris, utilisés pour des simulations de combats urbains. La dernière incursion terrestre israélienne dans Gaza remonte à 2014. À Tselem, les soldats estiment aujourd'hui être plusieurs dizaines de milliers au moment où l'armée a rappelé 360 000 hommes combattants et compte 169 500 soldats sous contrat ou en service militaire. Et c'est la moitié moins que la semaine dernière, vu que beaucoup sont sur le terrain. À savoir à la lisière de la bande de Gaza, 20 km plus loin, explique un gradé sous couvert d'anonymat. Les familles des appelés viennent livrer les repas ou partagent une permission assise sur des chaises de camping le long de la route. À l'entrée de la base, Homer, 23 ans, réserviste de l'artillerie, cherche du réseau pour retrouver l'ami qui l'emmène en permission 24 heures. Je suis occupé de tout depuis 14 jours, 2 semaines sur le terrain à tirer jour et nuit, explique l'artilleur, le bob et visage sale en montrant des mouchoirs d'oreilles et leurs cordons emmêlés à un collier indien porté sur l'uniforme de coton kaki. professeur de yoga dans le civil, il était en stage dans le nord de l'Inde quand il a reçu son rappel à la guerre. Il décrit depuis des nuits impossibles dans des bruits de canons et dans ce que les soldats appellent leur argot la poudre, la poussière provoquée par le passage des blindés dans le sable du désert de Negev. Le calendrier de l'opération terrestre est pour lui, comme pour son commandement, une inconnue totale. Le pire, c'est de ne même pas avoir le temps de faire notre deuil. J'ai deux amis de Nova, la rive partie où quelques 270 personnes sont mortes selon le bilan israélien, tuées et une amie kidnappée, explique le soldat israélien. Quand tout ça sera fini, il faudra aussi qu'on fasse face à cela. Mais là, on n'a pas le temps, ajoute le jeune réserviste. Depuis le 7 octobre, Israël pillonne sans relâche la bande de Gaza en riposte à l'attaque du mouvement islamiste au pouvoir dans le petit territoire. Plus de 5700 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués depuis le début des bombardements israéliens, selon le ministère de la Santé du Hamas. Voilà pour ce reportage. Le projet de construction d'une nouvelle tour en plein lagon sur le spot mythique de Teahupo à Tahiti pour pouvoir accueillir les juges de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques de 2024 cristallise depuis plusieurs jours les tensions et les incompréhensions sur l'île. Un reportage de la 1337. L'idée de Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation de Paris 2024, d'organiser l'épreuve de surf à Tahiti ne se fait donc pas sans vague. Dimanche 15 octobre, une marche pacifique rassemblant plusieurs centaines de personnes a été organisée près du village de Teahupo. Différentes associations et des riverains s'opposent à la construction de cette tour des juges en aluminium édifiée dans l'eau spécialement pour l'épreuve des JO et qui pourrait dégrader, selon eux, les fonds marins et nuire à la biodiversité du site. La tour, prévue de 14 mètres de hauteur, devrait comporter 3 étages, un local technique climatisé pour les serveurs internet alimenté par un câble sous-marin, mais aussi des toilettes avec un système d'évacuation raccordé à une canalisation. Le coût du projet est estimé à près de 4,4 millions d'euros. Ce qui inquiète principalement les opposants à cette tour, ce sont les possibles dégâts sur le corail qu'entraîneraient les travaux. Le gouvernement veut faire passer la barge de la foreuse par un endroit impossible. Ça va tout péter, ce n'est pas possible de faire ça proprement. Je leur ai dit, mais ils vont le faire quand même. Ça va être une catastrophe, regrette Milton Parker, vice-président de l'association ATIO, qui gère le domaine Parker, une grande partie du village de Teahupo. Pour l'instant, les travaux n'ont toujours pas débuté. Dès qu'ils vont commencer à casser le corail, c'est là qu'il va falloir intervenir. Les techniciens disent qu'ils connaissent le site, mais c'est faux, ils nous mentent, s'insurge Milton Parker. Le surfeur local, Matadi Dorolet, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, explique notamment que pour l'épreuve de World Surf League, la WSL, organisée chaque année à Teahupo, une tour en bois est installée puis démontée une fois l'épreuve finie. Même pendant le Plus Code Rouge en 2011, avec une série de vagues de 15 mètres, la tour en bois a tenu et elle a toujours résisté, assure Matadi Dorolet à l'AFP. Et on n'a pas besoin de 40 personnes sur cette tour, on peut réduire. D'autant plus qu'il n'y a que 5 juges sur une compétition. Une pétition en ligne contre la nouvelle tour a donc été lancée en ligne et a recueilli, selon lui, plus de 70 000 signatures. Le comité d'organisation olympique justifie, lui, ce projet en avançant les raisons de sécurité, la tour en bois de 13,50 m n'étant plus aux normes. Son emplacement sera également identique à la précédente tour. Un bureau d'études spécialisé en environnement marin a été missionné par le gouvernement polynésien qui est maître d'œuvre sur ce projet. Et les travaux envisagés doivent respecter le strict cahier des charges environnementales. Lors d'une visite sur l'île en août, Tony Estanguet avait assuré aux Tahitiens, au sujet de Teahupo, que Paris 2024 ne voulait pas dénaturer cet endroit qui doit rester au plus près de ce qu'il était, selon les propos rapportés par la presse locale. Le président de Polynésie française, Moatai Broterson, a tenté de rassurer les riverains en se rendant samedi dans un village voisin, à Teahutu. Il est évident qu'au moment du fourrage, il va y avoir du bruit et des dégagements de sable. Mais tout ça, ça va être contenu et nettoyé. Ensuite, la nature reprendra ses droits, a-t-il assuré, selon les propos rapportés, toujours selon la presse locale. Des assurances qui ne semblent pas convaincre les opposants, c'est une certitude qu'ils vont dégrader les coraux, voire creuser un chenal. C'est aussi une destruction de notre garde-manger, l'un des rares endroits de Tahiti où le poisson chirurgien est encore comestible, regrette Matadi Dorolet. On ne dit pas non au JO, mais on dit non à la tour en aluminium. Le gouvernement avait dit que ce n'était pas à Teahupo de s'adapter au JO, mais au JO de s'adapter à Teahupo. On attend qu'ils tiennent parole, a ajouté le surfeur. Voilà pour ce reportage. Et puis au milieu d'un fleuve amaigri, une mâchoire métallique grignote le fond mètre par mètre. Et l'équipage du dragueur Hurley se relie 24 heures sur 24 depuis des mois pour creuser le lit du Mississippi et permettre au bateau de continuer à naviguer malgré la sécheresse. Un reportage de la 1337. Au milieu d'un fleuve amaigri, une mâchoire métallique grignote le fond mètre par mètre. L'équipage du dragueur Hurley se relaie 24 heures sur 24 depuis des mois pour creuser le lit du Mississippi et permettre au bateau de continuer à naviguer malgré la sécheresse. Pour la seconde année consécutive, le plus grand fleuve d'Amérique du Nord bat son record du niveau le plus bas, Memphis dans le Tennessee. « On n'a jamais vu ça », répètent en ville les habitants. Des grands lacs du nord de la Louisiane au sud, le majestueux Mississippi n'est plus que l'ombre de lui-même. Le cours d'eau est constellé de blancs sableux. Des plantes prennent possession des rives, d'habitude englouties. L'eau salée remonte de l'embouchure et la mécanique d'une partie de cette Amérique rurale et agricole dépendante de cette voie de navigation est grippée. Inquiète de voir le fleuve devenir impraticable, les autorités se mobilisent. Cette année, nous avons travaillé presque sans arrêt depuis l'automne dernier, partout de la Nouvelle-Orléans à Saint-Louis, explique le capitaine Adrian Pirani sur la passerelle du Hurley. Le bateau, qui appartient au génie de l'armée américaine, est chargé de l'entretien des voies navigables, creuse pour la troisième fois le même endroit près de Memphis. Une sorte d'aspirateur géant rejette les boues sur les côtés près des rives. Adrian Pirani enchaîne les longues journées pour que le commerce ne s'arrête pas, et un peu plus que ça. « Je viens d'une famille d'agriculteurs, juste là, de l'autre côté du fleuve », confie le marin. « Ça me touche personnellement. Le Mississippi est indispensable aux exportations internationales des produits agricoles du Midwest. Avec moins d'eau, le fleuve est plus étroit et moins profond, ce qui limite la largeur et la profondeur des embarcations. » Un goulot d'étranglement qui arrive au pire moment en ce début d'automne, les récoltes de soja, de maïs sont en plein régime, même une partie de ce qui partait tout de suite sur la rivière reste bloquée à terre, forçant les agriculteurs à la débrouille pour ne pas se retrouver avec d'immenses stocks sur les bras. Côté Arkansas et Osceola, Jeff Worsman gère un port agricole, mais deux quais sur trois sont inutilisables par manque d'eau. Barge accoste sur la seule structure encore accessible, un bec verseur se met à cracher du soja dans les cuves. Elles peuvent contenir l'équivalent de 80 camions, mais ne seront remplies qu'à 50%, peut-être 60%, afin de ne pas racler le fond. Pourtant, c'était encore pire l'an passé. Le secteur n'était pas préparé, raconte M. Worsman. Pour l'année prochaine, il prévoit de faire venir un dragueur pour assurer l'accès des stocks. La crainte de cette répétition en 2022, le record de 1998 est battu. Il est explosé à nouveau en septembre 2023. Puis en octobre, de l'Illinois à l'Arkansas, l'eau n'a jamais été aussi basse. Une sécheresse débutée l'an passé dans le vaste bassin versant du Mississippi s'est prolongée sur cette année et s'est empirée cet été, explique à l'AFP Hannah Waller-Law, spécialiste du fleuve au sein du service météo américain. Le débit est tellement faible qu'en Louisiane, le Mississippi n'est pas assez puissant pour repousser l'eau salée qui remonte de son embouchure, infiltrant les réseaux d'eau potable des villages au plus proche de l'océan. Des habitants sont forcés d'acheter de l'eau en bouteille. Autour de Memphis, Sarah Gainer, une hydrologue au sein du génie, multiplie les interventions pour abaisser les capteurs qui n'avaient jamais été destinés à détecter des niveaux si faibles. Sur les 10 ou 15 dernières années, sur le Mississippi, nous avons vu davantage de crues historiques et davantage de sécheresses historiques, résume l'experte, chaussures de sécurité aux pieds à bord du Hurley. Sur la dizaine de professionnels interrogés par l'AFP sur place, M. Kira Mitaro est le seul à revendiquer ce mot au poids politique si lourd aux États-Unis. Si quelqu'un a une meilleure explication, j'aimerais bien l'entendre. La seule qui me vient, c'est que c'est le changement climatique. Voilà pour ces reportages. C'est la fin d'un tour dans le monde qui revient, bien sûr, dès demain, en pleine forme, à partir de 9h10.